Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus donc pour cette rencontre autour de l'exposition Corto Maltese de la BPI. Alors l'expo continue, vous pouvez toujours la voir jusqu'au 4 novembre si je ne dis pas de bêtises. Mais ce soir, donc, on va parler de Corto un petit peu, de vêtements beaucoup, sans doute, puisqu'il s'agit d'une rencontre autour de Corto et la mode et l'influence du personnage sur le vestiaire masculin. Et du coup, pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir Adrian Camarti, professeur assistant en histoire de la mode, Gauthier Borsarello, spécialiste du vêtement vintage et directeur de la création chez Fursac, et Pierre Lungheretti, directeur du Théâtre Chaillot.
Délégué.
Directeur délégué du Théâtre Chaillot. Merci beaucoup et bonne soirée.
Merci beaucoup.
Merci.
Ça fonctionne ?
Bien, oui, bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup d'avoir organisé cette rencontre parce que, en réalité, la question de la mode et de la bande dessinée n'est pas un sujet qui est beaucoup traité. Moi, en tant que directeur général de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image que j'ai dirigée à Angoulême, que j'ai dirigée de 2016 à 2022, j'avais souhaité précisément consacrer une exposition entre ces relations entre la mode et la bande dessinée, parce qu'il y avait trois éléments qui me frappaient beaucoup. C'est déjà la question du dessin. C'est une pratique qui est commune, évidemment, à la bande dessinée, mais aussi aux créateurs de mode, dont beaucoup dessinent. Certains ne dessinent pas, mais beaucoup dessinent. Et la création de vêtements passe beaucoup par le dessin. Donc, il y a cette matrice commune qui me semblait être un élément intéressant. Le deuxième point, c'est que la question de l'influence de la bande dessinée sur la mode est un vrai sujet. On voit qu'il y a toute une série de créateurs qui se sont intéressés à l'univers des super-héros, par exemple. On pense à Thierry Mugler, mais pas uniquement. Évidemment, à Corto Maltese, on aura l'occasion d'en reparler, mais aussi à toute une série de héros moins visibles que les super-héros, qui renvoient soit à des accessoires, soit à des looks, soit à des allures générales qui ont influencé beaucoup, ou alors les motifs de bande dessinée, le dessin de bande dessinée, intègre le vêtement. Notamment Jean-Charles de Castelbajac a beaucoup travaillé sur ces éléments-là, mais pas uniquement. Donc, et le troisième point, c'est la représentation de la mode et du vêtement dans la bande dessinée, qui est aussi un sujet qui est présent. Alors, il y a notamment une bande dessinée extrêmement intéressante sur Dior qui a été écrite par une autrice qui est malheureusement décédée, dont le nom est en train de m'échapper malheureusement, mais je vous la reciterai. Beaucoup, Karl Lagerfeld a fait aussi l'objet de bandes dessinées. Et cet univers de la mode est finalement fait l'objet de bandes dessinées un corpus relativement consistant. Et donc j'avais souhaité explorer via cette exposition toutes ces différentes composantes. On avait notamment montré des créateurs de mode qui ont écrit des bandes dessinées. Yves Saint-Laurent a écrit La Vilaine Lulu, qui est une bande dessinée. Donc on voyait qu'il y avait une proximité entre les deux univers qui, a priori, n'est pas aussi évidente. Et pour vous dire la vérité, l'origine de cette exposition, et c'est pas parce qu'on est là réunis ce soir, c'était, j'avais été très frappé par l'influence de Corto Maltese. Alors, il y a eu après l'exposition une collection Lanvin en 2020 qui a été présentée au Centre National de la Danse, qui était très directement inspirée de Corto Maltese. Mais il y avait eu là aussi, il y avait eu la fameuse publicité du parfum Dior et toute une série de motifs empruntés à Corto Maltese qui m'avaient aussi poussé à organiser cette exposition. Donc voilà, alors je vous propose, aussi bien Adrian et Gauthier, peut-être de commencer par la question des origines du vestiaire de Corto Maltese, puisque c'est un vestiaire très particulier qui emprunte à plusieurs types de vêtements, à plusieurs univers. Donc je vais peut-être lancer le PowerPoint, parce que pour faciliter l'explicitation et les origines de ce vestiaire, j'ai préparé un petit PowerPoint. Et peut-être on peut commencer par les différentes composante de ce vestiaire et commencer par un des éléments les plus iconiques de l'allure générale de Corto Maltese, qui est, alors j'ai appelé ça la redingote parce que c'est entre la redingote et le caban. Moi j'ai du mal à situer exactement la définition de cette veste, mais je vais peut-être vous laisser en parler. Je ne sais pas, Gauthier, est-ce que...
Vas-y.
Non, c'est un vêtement qui est soit militaire, soit civil. En tout cas, le caban est plutôt militaire. L'histoire qui est intéressante sur le vêtement marin en général, c'est le fait qu'il soit croisé. Le vêtement croisé, au départ, c'est quelque chose de technique. C'est simplement que quand vous êtes de quart, ce qu'on appelle, c'est-à-dire sur le pont, face au vent, vous n'avez pas le droit de bouger, parce qu'il faut regarder si devant, il n'y a pas un iceberg, par exemple, ou quelque chose d'autre. Si le vent vient de bâbord ou de tribord, vous puissiez changer le boutonnage de votre vêtement pour éviter que le vent s'engouffre dans votre vêtement. Donc la création du vêtement croisé au départ est fonctionnelle. Et ensuite, il y a tous les décors et les apparats du militaire. Donc les boutons, en fonction de son régiment, de là d'où il vient, son grade sur les épaulettes, etc. La couleur aussi peut varier en fonction de là où il est, entre le blanc, le bleu, parfois le rouge garance. En tout cas, c'est un vêtement qui est à la base militaire et qui peut être aussi de représentation, parce que pour un défilé, c'est pas un vêtement technique, mais simplement pour montrer qui on est dans son régiment au moment de défiler pour une occasion ou une autre.
Ouais, effectivement. Et alors, enfin, c'est intéressant en tout cas de relever l'ambiguïté sémantique qu'il y a quand on regarde les planches de Corto Maltese. Et en plus, parfois, il est plus clairement au caban. Donc parfois aussi, on y reviendra sans doute, il y a des variations quand même dans ce qu'il porte, et notamment sur cette pièce-là. Et effectivement, en faisant des recherches, alors il y a une redingote de marine qui est conservée au musée de Greenwich, au Royal Museum de Greenwich, qui me faisait beaucoup penser à ce que porte en fait Corto Maltese. Et là, elle date du milieu de 1863, je crois. Donc on retrouve comme ça des formes qui sont assez proches à ce moment-là. En tout cas, le bleu semble un bleu Royal Navy, donc il y a quand même une inspiration britannique. Et après, je pense que dans le modèle, il prend aussi des libertés. Je pense que l'idée, c'est pas non plus d'être totalement littéral, c'est comme une œuvre de fiction. Donc c'est pour ça que je pense que parfois il est compliqué de retracer précisément ses influences, mais à mon avis, c'est quand même, sans doute britannique. Et effectivement, c'est un vêtement qui, de toute façon, dans le cas de la redingote et dans le cas du caban, est quand même fortement lié au 19e siècle.
En plus, les vêtements marins militaires se ressemblaient entre les Italiens, les Anglais. Enfin, il y a beaucoup de points communs.
Complètement.
Et en plus, sa mère est gitane, je crois, c'est ça, et son père est anglais. Donc ça colle. Et la boucle d'oreille, pareil, c'est un truc qui est à la fois esthétique, mais qui est d'abord fonctionnel pour les marins, parce que c'est un point d'acupuncture pour lutter contre le mal en mer, et aussi un code chez les gitans d'avoir de l'or en bijoux à l'oreille.
Alors, peut-être deuxième composante, c'est le pantalon évasé.
J'ai appris dernièrement pourquoi ça a été créé, ce truc-là. Enfin, il y a un an, j'ai appris pourquoi le pantalon évasé a été créé pour les marins. Et simplement pour que quand le pont est rempli d'eau, tu peux remonter ton pantalon plus rapidement. C'est pour ça que le pas de def a été créé. Et il est tombé dans la sous-culture plus tard, quand à la suite de la guerre du Vietnam, il y avait énormément de pantalons en denim, donc solides. Et pas d'éléphant parce que c'était marin, et les hippies, tu me contrôlerais pas, parce que c'est ton sujet, on récupérait ça après la guerre du Vietnam pour juste habiller pour $2 dans un truc solide.
Alors aussi il y a la couleur du pantalon qui renvoie aux militaires et à l'uniforme marin, parce qu'en réalité, je sais qu'en France, je crois qu'on impose en fait on le formule pour l'été, pareil, hein, encore une fois, il me semble que c'est sous le Second Empire pour le pantalon blanc, mais effectivement, là ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il faut quand même rappeler que Corto Maltese, c'est quand même une œuvre qui commence en 1967, que là aussi ça nous renvoie sans doute à la contre-culture sans S. Et aussi, on a l'impression que Hugo Pratt, aussi avec la forme qu'il va donner parfois à ce pantalon, va faire une sorte de pas de def. D'ailleurs, il y a une braguette, ça nous fait, alors c'est pas un jean, mais ça nous fait penser à des formes comme ça, qui sans doute rattachent Corto à son époque, c'est-à-dire à son époque de naissance, qui est quand même la fin des années 60. Et j'ai l'impression que ça permet de contemporanéiser aussi la silhouette, qui est parfois avec des pièces effectivement plus historiques.
Ça, tu le sais mieux que moi, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cycles dans la mode. C'est vrai que les 60 reprenaient déjà les codes des années 20, donc il y a eu des boucles qui correspondent et à la vie de Corto dans son personnage de fiction et au moment de la création de la BD. Donc ça regroupe tout le. C'est bien foutu, quoi.
Ouais. Mais donc le pantalon évasé, Adriane, c'est dès le Second Empire, c'est ça ?
Pas évasé, mais le blanc. Le pantalon blanc.
Mais l'évasé, on trouve du 19e siècle déjà. Alors, ouais. C'est souvent un pont, mais c'est très évasé pour pouvoir être roulé très rapidement sur les ponts. Et les hanches sont plaquées pour pouvoir faciliter les manœuvres avec les cordes. Enfin, on dit un bout sur le bateau, mais les cordes autour de ton corps, il faut que tout soit très serré et le bas est simplement évasé pour être.
Ok. Autre élément iconique, c'est la fameuse casquette. Donc, est-ce qu'elle a des caractéristiques particulièrement notables, cette casquette ? Est-ce que...
Elle est très marine parce qu'elle est blanche déjà, et les veillères sont courtes pour que le vent puisse pas s'engouffrer dedans. Je pense que c'est un des codes juste techniques de la casquette marine. Et puis devant, on voit mal là, mais il y a une ancre avec une couronne, donc c'est la Royal Navy. Mais à l'époque, tout le monde était Royal Navy, parce qu'il y avait des rois à peu près partout, enfin au Second Empire chez nous, et puis en Angleterre depuis. Je sais pas si c'est un truc à ajouter sur la casquette.
Ouais, mais... non, idem. Alors ça, j'ai vu qu'effectivement, elle succède aux bicornes, pareil. Donc, début du 19e siècle, je crois que c'est vers les années 1830. Que ce soit aux États-Unis, en France, c'est à peu près au même moment. Et là aussi, j'ai l'impression que ça rattache quand même le vestiaire de Cortot à... Finalement, à chaque fois, à des pièces, en tout cas, qui émergent et qui s'imposent au cours du 19e siècle et qui vont ensuite être conservées. Quoi.
Ce qui est assez marrant, c'est que les Stones, à l'époque, s'habillaient comme ça dans les années 60, où on s'est créé, c'est que c'est très moderne, en étant parfaitement cohérent dans l'époque des années 30, où prend place l'histoire. Quoi.
Ouais.
Donc ça colle dans les deux cas.
Autres éléments, c'est tous les accessoires qui sont très présents. Donc, on a parlé de la boucle d'oreille. Il y a aussi la question des foulards, des écharpes. Est-ce que là, ce qui donne une dimension très raffinée au personnage.
C'est à la fois raffiné et en même temps, les foulards à l'époque, c'est presque un truc de punk. C'est-à-dire que, tu sais, les Apaches, par exemple, dans Paris, c'était le foulard. Enfin, il n'a pas des cravates très traditionnelles pour un code classique. À l'époque, tout le monde était vissé autour du cou et selon qui tu étais, tu avais une cravate de banquier, une cravate de notable.
Ouais.
Voilà.
Ouais, ouais. Mais c'est très... Enfin, moi, je le trouve très ambigu sur les pièces parce qu'effectivement, là encore, la cravate, on en trouve, en fait, dans le vestiaire marin, la cravate noire aussi. Donc, mais en même temps... Quand on regarde les images, on a quand même l'impression effectivement que ça... Ouais, qu'elle a une forme étrange. Et effectivement, et parfois, ils portent des foulards. Ils portent aussi une sorte... Alors, pas un bandana, mais une sorte de foulard rouge aussi qui est là aussi très porteur de sens. Alors, soit ça... Enfin, alors pour la culture gay, mais pas seulement. Donc, en fait, ouais, c'est ça, je pense, aussi le génie de cette... En tout cas, alors on parlera sans doute de ça après, qu'est-ce qui particularise réellement Cortot Maltese d'autres personnages, mais en tout cas, je trouve que le personnage est réussi parce que le vestiaire, il est ambigu, il n'est pas facilement déchiffrable.
On sent qu'il y a un travail derrière, en tout cas, parce que quand tu creuses, tu vois que chaque référence est cohérente et à l'époque d'écriture et à l'époque du personnage.
Effectivement, ouais.
Et donc, effectivement, passons à l'allure générale. Là, j'ai extrait un certain nombre d'images et de dessins qui montrent cette allure, qui évidemment fait corps avec une posture de Cortot, et qui aussi le montre dans des scènes un peu collectives où on voit à quel point il surgit. Là, dans ce Cortot Maltese en Sibérie, on voit sa stature, on voit ce côté très hiératique, qui est à la fois, et c'est aussi toute l'ambivalence du personnage, il est à la fois très hiératique dans beaucoup de planches et dans beaucoup de dessins, et puis à la fois détaché, à la fois distant, avec une forme de nonchalance. Et
Sexy, quoi.
Ouais.
Il est sexy parce que tu vois qu'il est indépendant, il a des codes militaires très référencés, mais il vit dedans sans être en posture. Tu vois, la cigarette, la cravate qui est un peu mal mise parfois, le pantalon qui flotte. Il y a un truc d'indépendance et de... Ouais, le vêtement ne le porte pas, il le porte vraiment lui, avec, comme si ça lui était imposé comme un uniforme, mais après, il vit vraiment dedans, ce qui est le truc le plus sexy qui soit, je pense, pour un homme.
Ouais, et même les proportions sont... Alors, effectivement, lui aussi est représenté... Enfin, il a l'air très grand, quand même. Il a l'air très grand. Il y a un tas d'éléments qui rajoutent à cet effet visuel. Donc, le fait aussi que la redingote est assez cintrée, en fait. Et en plus, la longueur est mi-longue. Plus la cravate. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un tas d'éléments aussi. Et peut-être la casquette qui le rehausse et qui lui donne une allure, effectivement, très élancée.
Puis les favoris aussi, quand même. Grosse rouflaquette qui coule le long du visage, qui n'est pas commun.
Ouais. Et alors effectivement, et après sans doute il y aura un débat à avoir sur les intentions de Pratt et sur la manière dont on peut aussi déchiffrer une œuvre également par rapport au contexte. Mais en tout cas, en 2024, quand on regarde ça, enfin, on a l'impression de voir limite un chanteur d'un groupe de rock de la fin des années 60, début des années 70, quoi.
Il est très Mick Jagger, il est très Bowie aussi dans certains personnages. Ouais. Enfin, il y a vraiment ce truc-là. C'est là où, comme tu disais tout à l'heure, le temps de l'écriture raccroche au temps de l'histoire. Je crois que c'est vraiment ça qui le rend complètement intemporel, c'est que ça a été bien, enfin comment dire, c'est cohérent dans deux époques et ça le sera pour toutes les suivantes.
Est-ce que vous diriez qu'il y a une dimension dandy chez lui?
Je trouve que le personnage crie ça quand tu le lis. Comment dire, ce que tu vois en image, ça dit ça. Et t'as pas envie de projeter ça sur lui. C'est-à-dire que t'as envie de croire que le mec, il peut dormir dans ses fringues, repartir le lendemain avec juste un café. Enfin, t'as pas envie qu'il soit précieux. Et je trouve que les vêtements, comme il les a pensés, Pratt, c'est quand même que fonctionnel technique. Il n'y a rien de chichi, en fait. C'est, tu vois, il met un foulard comme ça parce que juste il faut se couvrir comme à l'époque. C'est vraiment un code. C'est comme si t'étais presque seins nus à l'époque, si t'avais le décolleté en tant qu'homme. Donc, il correspond au code de son époque. Mais il y a un truc de nonchalance, comme tu disais, il est un peu déguingandé. Je sais pas si on dit déguin ou déguin.
Plutôt des gains, mais...
C'est vrai que c'est G.I., j'ai un doute là-dessus à chaque fois. Si quelqu'un a la règle...
Oui, Sarah, tu...
Non.
Déjà, oui, gens, ouais.
En tout cas, il se relâche, il a un truc très... Et je trouve ça plus sexy, il a toujours les cheveux un peu gras, la clope. Tu sens qu'ils sont plus la clope et le café que le parfum, je trouve. Et je trouve que ça le rend moins dandy. Oui.
Mais est-ce que vous le trouvez élégant?
Ah bah oui, moi en tout cas je le trouve élégant, moi encore une fois par rapport à son allure et sa taille, la proportion des vêtements, tout est fité. Alors c'est peut-être utilitaire, mais c'est très fité.
Le vêtement marin est très souvent très près du corps, quoi. Donc ça colle aussi au rôle. Mais je sais pas s'il est élégant, mais il est sexy en tout cas, je crois. Il a quand même les cheveux un peu gras, il est, tu vois.
Et pour toi Gauthier, ça correspond pas forcément à ta définition de l'élégance?
Ah non.
Pourquoi?
Ah non, il y a des gens qui sont c'est deux choses très différentes. Je trouve que l'élégance, il y a un truc naturel, certes, mais les gens qui ne cherchent absolument rien, qui n'en ont rien dans les codes de l'élégance et qui ont une élégance naturelle. Je ne sais pas comment définir ce que j'ai en tête. Mais il y a des gens avec un t-shirt Uniqlo, un jean pourri et une paire de baskets, ils sont élégants. Et il y en a qui ont pour 15 000 euros de costumes sur mesure et qui ne le sont pas. Donc je pense que c'est quelque chose d'assez inné. Et j'ai du mal à définir si quelqu'un est élégant en 2D. C'est-à-dire que c'est beaucoup dans le mouvement, c'est beaucoup. Si ça se trouve, il se comporte très mal, ouais. Et aussi un comportement avec les autres. C'est-à-dire que peut-être qu'il ne se comporte pas si bien que ça dans la vie. Enfin, l'élégance, c'est un tout. Ce qu'on peut dire, c'est que ces fringues sont référencées et qui dégagent quelque chose de très puissant et de très fort. Non, je suis pas d'accord, Adrien. Mais... Ouais,
et par rapport à ce que vous appréhendez de l'œuvre, de la série, comment ce vestiaire, comment cette forme de style vestimentaire, comment elle agit sur l'appréhension du personnage, sur la façon dont vous le percevez, le rôle que joue ce vestiaire et cette codification vestimentaire dans la place du personnage, dans le sens qu'il dégage, dans la caractérisation que Pratt veut en faire. Comment vous percevez tout ça?
Moi, je trouvais intéressant ce que tu disais quand tu commençais à parler de sous-culture. Je sais pas si ça correspond vraiment à ta question, la réponse. Mais ce que je trouve vraiment bien dans ce personnage, c'est que c'est en 67, le départ. Et en fait, la révolution 69, tous ces trucs-là, ça correspond au fait historique. On a dit tout à l'heure que dans les fripes, il y avait plein de vêtements de marins, que ça coûtait pas cher. Mais il y a une sexualisation de ce personnage qui est très forte à cette époque-là. Et je pense que c'est pas un fait du hasard. La grosse boucle de Rayonor qui est très marquée, les roues flaquettes, les vêtements moulants, l'icône quand même qui est assez gaie du marin, qui est repris dans beaucoup ça tu connais mieux que moi, de la mode des années 80. Le code marin revient très fort par les sous-cultures, en fait. Comme on disait, dans les fripes, il y a des pantalons pas de def moulants. Les mecs les achètent juste parce que c'est pas cher. Et en fait, ça crée une iconographie super forte à Woodstock, dans tous ces sous-cultures-là. Les t-shirts tout petits, parce que bon, c'était juste un truc historique quand il avait ça, shrinkait plus que ceux de maintenant. Et en fait, tous ces vêtements trop petits sur les hommes, etc., c'est devenu une iconographie qui a inspiré la mode. Et après, ça a bouclé la boucle. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est ça que je trouve intéressant.
Ouais, effectivement. Alors, on n'a pas l'impression que Hugo Pratt soit... qu'il ait l'intention, en tout cas, de dépeindre une icône de la culture gay ou quelque chose qui soit inspiré par ça. Mais néanmoins, en 67... pour les gens intéressés, y a un super article de Florence Tamagne, une historienne, sur la question, mais elle décrit très bien le fait que, en fait, le fantasme du marin dans la culture gay, il est en place au moins depuis les années 1920. Donc là, on est en 1967. Et en un sens, Hugo Pratt ne peut pas ne pas savoir ça, parce qu'en fait, quand on remonte un peu, je crois que c'est en... Il y a un film de Fassbinder, je crois, en 83, qui s'appelle Querelle, où on a un marin, on a le Village People qui sortent aussi des chansons en 79 sur la marine.
In the Navy.
Ouais, In the Navy. Et donc, en fait, c'est sûr que dans le contexte, on ne peut pas éluder cette culture visuelle, en fait, qui effectivement le rattache indirectement à cette culture, quoi.
Est-ce que vous faites le lien avec le caractère plutôt émancipé de Corto Maltese, ce caractère détaché, ce caractère indépendant, cette liberté qui traverse toute la série? Est-ce que ça, c'est une codification vestimentaire qui vous semble être cohérente avec cette dimension?
Vu que c'est du vêtement fonctionnel, ça appelle aussi l'aventure. C'est-à-dire que dans les vêtements qu'il a, il peut partir dans le monde entier. Il ne s'est pas vraiment attaché à... Enfin, si, on peut référence à l'Angleterre, etc. Mais habillé comme ça, tu peux aller partout. Tu n'es pas en vêtements d'apparat. Tu peux dormir dans une cale. Tu peux... Non, mais il y a ce truc que ça évoque, ce truc d'aventurier, de marin, en plus la casquette, les rouflaquettes et la boucle d'oreille. C'est très, très, très fort dans ce sens-là.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand même, au fil de la narration, on voit des changements. En fait, il a, alors on parle de la tenue de Corto Maltese, mais en réalité, il y aurait des tenues de Corto Maltese. Et on voit très bien en Sibérie, en fait, il est en manteau en fourrure, en fait, noir, ou bien il est en peau retournée. Quand il combat, il a rarement, parfois, en tout cas, il l'enlève parfois la redingote, parfois il est en chemise. Dans des climats plus chauds, il est en chemise, enfin, il ne va pas porter une redingote quand c'est vraiment intenable. Donc, il a quand même une adaptation au contexte et aux actions qu'il doit accomplir. Donc, en plus, ça renvoie aussi à cette idée de détachement, d'utilitaire. En fait, il a une sorte de style, enfin, il a un uniforme qui est en fait un uniforme sans doute au pluriel, et on le reconnaît, il a une silhouette identifiable, mais néanmoins, quand on s'intéresse plus précisément aux vêtements, on voit qu'il porte d'autres pièces quand même, et que c'est moins simple que redingote, pantalon blanc, mais il y a des variations, il y a des chemises, parfois, alors c'est pas des chemises en dénim, mais on a quasiment l'impression, enfin, il y a
il y a du chambray ou des trucs comme ça, il a un smoke aussi avec un pantalon large, une ceinture à glissière, enfin, en fait, c'est tout le code du vestiaire militaire, mais décliné dans son entièreté.
Et du coup, le lien que je fais avec la question précédente, c'est est-ce que vous considérez que Corto Maltese est une espèce d'archétype de la masculinité ou
pas ? Archétype, je sais pas, mais c'en est une en tout cas. Ouais. Dans les Village People, c'est un des quatre ou un des cinq, je sais plus.
Ouais. Alors après, je sais pas si tu veux qu'on aborde ça maintenant, mais quand on regarde la collection Fall 20 de l'an 20 par Bruno Cialelli, effectivement, en tout cas, il le prend pour ça. Il le prend pour l'idée de masculinité et sans doute chez lui pour l'ambiguïté, parce que quand on s'intéresse aux autres références du défilé, on voit que là, enfin, c'est notamment il y a aussi un film qui s'appelle Beach Rats qui sort en 2017 en fait, et là qui parle d'homosexualité. Lui, il le prend en tout cas comme une icône ambiguë. En tout cas, c'est la réception qu'il en fait. Et donc, alors oui, alors est-ce que c'est un archétype sans doute de plusieurs masculinités.
Est-ce que c'est voulu par Pratt? Ça, en revanche, c'est pas dit.
C'est
on a cherché, mais c'est pas dit.
Alors, le modèle de Pratt physique, c'était Burt Lancaster, qui est pas non plus un parangon d'ambiguïté sexuelle.
Ouais.
C'est vraiment pour le coup, un archétype de masculinité sans ambiguïté aucune dans le panthéon hollywoodien.
C'est intéressant parce que quand on regarde effectivement Burt Lancaster, où il y a John Wayne aussi, j'ai lu, quand on regarde les images des films, en tout cas qui ont inspiré directement Pratt, je crois qu'il y a Le Roi des Îles notamment, on n'a pas sentiment d'ambiguïté. Contrairement à la
vérité. L'ambiguïté, c'est toi qui l'as créé, enfin, c'est ton regard aussi quand tu regardes le personnage. Mais c'est sûr que c'est quelqu'un de très masculin avec l'ambiguïté du marin naturel, parce que les vêtements sont très près du corps pour une raison fonctionnelle. Donc ça va, c'est des mecs musclés qui s'entraînent toute la journée dans des vêtements moulants, souvent blancs. Bon, après, chacun voit ce qu'il veut voir.
Alors, effectivement, abordons.
Et humide sur le bateau.
Abordons la question de comment cette codification vestimentaire influence un imaginaire de la mode. Et un imaginaire contemporain plus global, une forme d'influence dans la culture contemporaine. On a parlé de la collection L'An 20. Il y avait eu, je sais, chez Colette, le magasin qui a disparu aussi, une collection Hugo Pratt, où Il y avait, alors là, c'était vraiment un caban qui avait été créé. Comment vous mesurez l'influence de ce personnage dans la création? Par exemple, toi, Gauthier, est-ce que c'est un personnage qui t'inspire, qui te stimule,
Quand j'essaie d'être inspiré, j'essaie de ne pas prendre quelque chose qui est déjà dans l'œil d'un créatif. Donc si je veux être inspiré de l'univers marin, je vais dans les vêtements militaires, comme lui, je pense, a fait. Mais ce qui est sûr, c'est que le vêtement fonctionnel, militaire, utilitaire, inspire énormément la mode. Mmh. Ça, c'est un des codes. Après, il y a les vêtements tropicaux, il y a les vêtements d'aviation, il y a les vêtements de terrain, etc. Il y a plein de différents secteurs qui intéressent la mode. Évidemment, le marin en est un très fort. Et Corto Maltese est le personnage du marin. Enfin, à mon sens, j'en ai pas vraiment d'autres qui viennent en tête. Donc, quand tu penses marin, tu penses à lui. Il y a des créatifs qui vont s'appuyer là-dessus et d'autres qui vont vouloir creuser sur comment s'habiller Corto Maltese et vont directement aux vêtements fonctionnels du départ.
Mm-hmm. Mais est-ce que Corto Maltese, au-delà de cette collection de Lanvin, au-delà de Colette, est-ce que vous retrouvez dans la création contemporaine des inspirations récurrentes
Citer, j'en connais pas. Mais après, le problème, c'est que c'est coûteux de citer. Enfin, ils en ont peut-être, mais ils le disent pas. Mmh. Et comme Corto Maltese, c'est des choses que tu peux trouver ailleurs, tu peux, en gros, être inspiré par lui et détourner le sujet en disant « Non, je prends du vêtement militaire, tu vois, entre deux guerres, et puis et ne pas le citer. » Mais je pense qu'évidemment, on l'a tous dans l'œil. Et quand tu veux créer un marin sexy, c'est à lui que tu penses.
Est-ce qu'il y a, je fais une parenthèse, est-ce que d'autres héros de bande dessinée t'inspirent, toi, Gauthier ?
J'aime beaucoup le Capitaine Haddock pour la colorimétrie de ses tenues, qui sont toujours bleu, blanc, noir, qui sont les trois couleurs que j'aime le plus ensemble. Non, je crois que c'est tout. En bande dessinée, je crois que c'est tout ce qui m'inspire. Mais je suis un peu ringard là-dessus, je connais que les vieilles, mais je crois qu'il y a plein de trucs très intéressants dans les mangas. Mais j'ai pas assez regardé. Mais j'imagine que dans One Piece, etc., il y a des choses à creuser.
Que tu ne creuses pas encore?
Absolument pas. Peut-être jamais ou peut-être plus tard. Tu connais toi ça, Adrien, un peu?
Non, mais là, je réfléchissais peut-être aux questions de génération. Je me demande s'il n'y a pas aussi une actualité, sans doute autour de Corto Maltese, donc par cette exposition, effectivement, mais aussi par différents événements ces dernières années, ou des rééditions qui peuvent aussi le remettre, à mon avis, à l'agenda, et qui pourrait sans doute aussi avoir plus tard des répercussions.
C'est un peu le problème quand t'es créatif, c'est quand tu vois un film qui te choque, t'es inspiré immédiatement par lui, mais le problème, c'est que t'es pas seul à le voir. Et du coup, ça crée une tendance d'une saison ou deux saisons après, on a tous un peu envie de faire la même chose, et ça, c'est très intéressant parce que ça crée aussi des générations et du coup des tendances. Et pour toi, c'est intéressant d'étudier, j'imagine, plus tard, quand t'étudies de la mode. Mais c'est vrai que s'il y avait un film, par exemple, un Marvel ou j'en sais rien, qui prend Corto Maltese, Marvel, c'est un mauvais exemple, mais tu vois, un grand cinéaste qui prend Corto Maltese comme personnage et qui le crée, je pense que ça pourrait relancer complètement une création artistique globale.
Alors, il y a une chose aussi il y a un élément qui je trouvais très frappant dans la série, dans Corto Maltese, c'est que en réalité, parce qu'il y a d'autres personnages qui sont extrêmement stylés vestimentairement, c'est aussi une série qui met en scène les pouvoirs du vêtement et la capacité d'impression au sens très très primaire du vêtement. Comment un vêtement, avec sa portée symbolique, avec sa dimension dramaturgique aussi, comment un vêtement interagit sur des relations entre différentes personnes. Et donc Corto Maltese, c'est une série où Hugo Pratt met en scène les soubresauts de l'histoire, et on a le sentiment que ces personnages, donc on croise un certain nombre de personnages qui ont existé, d'autres qui sont le fruit de l'imagination de Hugo Pratt. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est à quel point ces personnages qui ont une influence sur l'histoire ont une force vestimentaire relativement puissante.
Ce qui est marquant aussi, c'est ce qui nous manque un peu aujourd'hui, je pense. Dans la rue, dans comment les gens s'habillent partout dans le monde, il y a une grande uniformisation selon les âges, les catégories sociales, etc. Entre Séoul, New York, Londres, tout le monde se ressemble par catégorie. Et en fait, à l'époque de Hugo Pratt, ce qui est sympa, c'est que c'est le moment où on commence à déconstruire ce truc d'uniforme. Avant ça, avant la Seconde Guerre mondiale, en gros, tout le monde est habillé pour sa fonction dans la société.
Non, mais en fait, ce qui est, alors, Mais sans doute, je pense que c'est un. On en parlait un peu avant, mais c'est pas un sujet qui a beaucoup été étudié en réalité, même le BD et la bande dessinée en général. Et quand je regardais les plans, je me disais que sans doute il y avait quelque chose autour aussi des différentes cultures qui sont représentées par Corto Maltese. Et par Hugo Pratt. Et quand, dans l'exposition, on voit Bouche Dorée, par exemple, donc cette fille de Baïa, avec des costumes très particuliers, et on croise tout un tas de personnages comme ça, issus de cultures différentes. Et à chaque fois, il y a la question de savoir, comment Hugo Pratt a sourcé et par quoi il s'est inspiré pour en arriver à ces représentations. Est-ce que ces représentations sont justes et c'est intéressant par rapport à ce que tu disais, Gauthier, par rapport à l'uniformisation. J'ai l'impression qu'il y a aussi ça dans la BD, chez Corto Maltese, il y a aussi sans doute un certain rapport à la modernité, sans doute donc à l'uniformisation qui va avec cette modernité. Et là, on a l'impression quand même d'avoir un panorama de costumes sur le plan géographique qui sont quand même très, très différents et très caractérisés, qui nous montrent une autre histoire mondiale par le vêtement.
Mm-hmm. Oui, et puis avec des inspirations, là, effectivement, sur Marina Siminova, qui est inspirée de Marlène Dietrich. Il y a Louise Brooks aussi qui inspire...
Mais ce qui est marrant, c'est ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, on a du mal à trouver des figures qui inspiraient, c'est-à-dire que quand il dit Zourgeois ou quoi, tu vois que c'est elle. Aujourd'hui, quand tu vois une star, elle est juste habillée dans la dernière collection qu'on lui a filée parce qu'elle est connue. Et en fait, il n'y a plus de notion de création de personnages pour les artistes, quelque chose que je déplore beaucoup, que ce soit les acteurs ou les musiciens. Dès qu'il y en a un qui sort un peu sa tête, il y a un grand groupe qui lui tombe dessus et qui l'habille dans la dernière collection toute neuve. Et du coup, on n'a plus le personnage de Corto Maltese, tu vois qu'il vit dans ses fringues, que c'est vraiment lui, que ça représente d'où il vient. On voit sa mère dans la boucle d'oreille, les rouflaquettes, on voit son père dans les vêtements militaires, blablabla. Et en fait, je trouve qu'on manque un peu de ça aujourd'hui. Et je crois que quand tu feuillettes ces planches-là, ça nous donne un peu de nostalgie de se dire c'était cool quand Steve McQueen, même de dos, tu savais que c'était lui. Ouais. Aujourd'hui, les stars américaines, tu les mets toutes de dos pour savoir qui c'est. Je trouve ça vraiment très difficile. Donc moi, ça me rend un peu nostalgique de ce temps-là que j'ai pas connu.
Et puis en même temps, il y a des personnes. Enfin là, je regarde, il y a des personnages très très sexualisés parfois. Enfin Esmeralda, par exemple, ouais. J'ai l'impression. Donc dans Tango aussi Pandora qui quand même elle a la bretelle à moitié défaite souvent elle est quand même très, parfois elle est sous un drap complètement nue il utilise aussi parfois le costume ou la nudité c'est assez sexuel en réalité surtout le personnage de Pandora qui est assez quand même sexualisé
oui et tout est suggéré hein. Il n'y a jamais de scène non. explicitement sexuel comme dans d'autres univers de bande dessinée. Ouais. Mais Gauthier, donc tu penses là aussi, je fais une petite parenthèse, tu penses vraiment que la société contemporaine uniformise et que le vêtement n'est plus une source d'affirmation
je pense
d'une identité individuelle.
Ouais, et je le vois chez les jeunes, ce qui me fait un petit peu peur, mais c'est aussi chouette parce qu'ils créent leur propre génération, mais il y a une uniformisation de tout. C'est-à-dire que depuis qu'il y a Airbnb, tous les apparts se ressemblent, ils sont tous blancs avec un cactus et un meuble scandinave. Tout va vers ce qui est facile à comprendre par l'humain, en fait. Dans un but, je pense, mercantile. Et en fait, tout va dans le sens de la facilité, de l'aisance, d'appartenir à une communauté facilement. Tout est rapide, en fait. Et tout est très digeste. Et je trouve que là, ça redingote, à mon avis, elle lui gratte le cou, elle est en laine. Tous ces broderies en cannetille, c'est très, très inconfortable quand tu passes ta main dessus. Enfin, il y avait une sorte de... Ouais, et puis on voyait nos oncles, nos darons, etc., qui avaient des sentias qui étaient lourdes avec le talon biseauté, mais ils adoraient ça, ils portaient leur lévis très serré parce qu'il y avait vraiment ce truc d'être prêt à souffrir pour son style, affirmer sa personnalité. Parfois c'était politique, parfois c'était dangereux aussi. Enfin, tu parlais des gays à San Francisco. Si tu mettais ta pochette dans la poche gauche ou droite, c'était pas le même message. Si tu portais tel jean ou tel t-shirt, c'était pas le même message. Il y a quelque chose de très fort. Aujourd'hui, tout le monde ressemble. Enfin, je pense aux gens un peu de mon âge, mais il y a une marque à New York, tout le monde fait la même chose, donc tous les designers font pareil pour que ça fonctionne. Il y a vraiment plus cette recherche de comment dire, j'ai l'impression que c'est ah ça marche, je vais faire à peu près pareil, alors qu'à l'époque c'est ah il y a ça qui existe, comment je fais différemment, comment je crée. Mais on n'aurait jamais eu la boutique sexe aujourd'hui ce serait impossible à penser aujourd'hui, en tout cas ce serait pas un succès. On manque un peu d'aspérité en fait dans beaucoup beaucoup de choses, que dans la nourriture, la musique, la décoration. Et je suis pas comment dire, je dis pas que c'était mieux avant, juste que j'ai hâte qu'on vive l'inverse de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Parce que la Air Force, jean noir, doudou de North Face noir, foie des wagons dans tous les métros, etc., je trouve ça juste triste de pas arriver à affirmer plus sa personnalité. Et je pense que nous, on est la dernière génération où il y avait dans des classes des punks, des skaters, des mecs qui aimaient le rap, des artistes, des bobos, des machins. Dans une classe, tu avais plein de diversité. J'ai l'impression que c'est de moins en moins le cas aujourd'hui.
Comment toi, tu luttes contre ça dans ton travail ?
Ah, dans mon travail, j'essaie de. Alors, déjà, j'essaie de jamais regarder une inspiration qui a moins de 20 ans. J'essaie de jamais regarder un défilé. C'est la raison pour laquelle je manque de culture dans la mode, c'est que je regarde que le vêtement qui a plus de 20 ans, que le vêtement qui n'a jamais été créé par un designer, mais pour une fonction. Donc, j'essaie de créer au moins des vêtements qui sont un peu différents, même si, bon, à la fin, on vend tous un pull bleu marine et un blouson en cuir noir. Hein. On vend tous la même chose, quelle que soit la marque, malheureusement. Donc, j'essaie dans les images. Tu vois, j'ai fait un manteau en fourrure rose pour homme cet hiver. J'ai fait des pantalons à fleurs imprimés. J'essaie juste de dire au client, bon, c'est pas que du bleu marine, du blanc et du noir, il y a des aspérités. Et puis voilà, à la fin, c'est le client qui décide et c'est jamais lui qui a tort. Soit que je n'en veux pas aux gens d'agir comme ça, j'en veux aux industriels et aux marques de céder à la facilité et de plus promouvoir la créativité pure. Mmh. Et en fait, on va prendre un designer parce qu'en fait, le vrai problème aujourd'hui, c'est le diktat du like, le diktat du nombre. À l'époque, il y avait un expert comme toi, Adrien, qui disait ce défilé est intéressant pour telle raison culturelle, telle raison historique. Et du coup, les gens lisaient cet article dans un papier et disaient ah, ce monsieur qui a un savoir que je n'ai pas a dit ça, je vais me rendre en boutique pour toucher et voir. Aujourd'hui, c'est lui à 25 millions de followers, donc il est forcément plus fort que celui qui en a 50 000. Et donc, la presse parle plus de celui qui en a 25 millions. Et en fait, c'est un cercle vicieux par le chiffre. Et par la masse,
par la masse
qui choisit, parfois dans des sujets qu'il ne maîtrise pas, et qui suit son instinct primaire de dire « j'aime ça ». Parce qu'on a cet instinct-là, il est très important, mais je trouve dommage qu'on ait enlevé la notion académique, la notion d'expertise aux experts. En fait, on a enlevé ça. Donc on met des personnages qui parlent à la masse, qui représentent quelque chose, donc qui flattent comme du sucre, comme du sel, comme du gras, comme tout ce qui nous flatte la bouche, et ben ça nous flatte l'œil, et donc on like plus facilement ce qui nous flatte, et en fait on va tous dans la même direction qui est la flatterie, enfin l'évidence en fait. Et donc à la fin on se retrouve tous dans les mêmes cases.
Et toi, Adrien, par rapport à effectivement cette lecture qu'on peut faire de Corto, ou cette affirmation de personnages qui influent sur les événements, ont tous une affirmation aussi d'un style vestimentaire. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui se délite dans l'époque contemporaine et que ces pouvoirs d'identification du vêtement, d'affirmation d'une personnalité, d'affirmation d'une forme aussi de liberté, est quelque chose qui se délite ?
C'est des sujets compliqués parce que aussi en histoire de la mode on vous décrit beaucoup la période post-révolutionnaire comme une période où débute comme ça le triomphe de l'habit noir, surtout au 19e siècle, et donc certains vont essayer de lutter contre ça. Donc on a déjà ces réflexions sur l'uniformisation du vêtement assez tôt en réalité, mais je rejoins Gauthier pour revenir à la période où sort Corto Maltese. Même dans les, alors moi je m'intéresse plutôt au discours contre la mode dans mes recherches, et c'est sûr que les années 60-70, il y a une réflexion sur l'uniformisation du vêtement, et ça on constate très bien. Alors parfois c'est des gens, même comme Roland Barthes, hein, quand il va écrire son article Landisme et la mode en 1962, il va dire en fait qu'il y a la mode a tué le dandisme parce que la mode, parce que les boutiques de mode, donc qui s'adressent à ce moment-là de plus en plus à des jeunes consommateurs, vendent de la fausse différence, c'est-à-dire de la différence industrialisée, ce qui donc empêche toute possibilité de différence.
Ça, on retrouve un peu. Ouais. C'est l'envers du dandy,
exactement.
Qui veut distinguer
ça. Ouais, exactement. Donc il dit en gros la confection a donc tué le dandisme. Et ça, on retrouve ça chez Baudrillard avec d'autres termes, etc. Et même quand on regarde dans les discours contre-culturels, on croise des hippies qui justifient leur tenue aussi en disant je veux exprimer une certaine individualité. C'est quasiment les termes qu'ils utilisent. On n'est pas du tout dans des trucs politiques ou dans des trucs je veux me réconcilier avec la nature. Il y a parfois des choses comme je veux porter de la couleur, la mode bourgeoise n'est pas à la couleur, donc je porte de la couleur, les punks aussi. On retrouve des textes comme ça où on a l'impression qu'effectivement, au fond, le punk ne serait qu'un qu'une manière de se différencier de la masse. Et donc, ouais, pour revenir à en tout cas, le discours sur la mode était un discours, effectivement, qui prenait beaucoup la recherche d'individualité contre le marché, qui sans doute était en train de s'uniformiser. Et en termes de marché, effectivement, on est passé à un stade supérieur, parce qu'entre cette période et aujourd'hui, il y a quand même l'avènement de la fast fashion, de l'ultra fast fashion. Effectivement, là, une sorte de règne de la différence industrialisée ou marchandisée, quoi, en termes de vêtements.
Ce qui est un petit fait historique, à mon avis, qui est un pivot dans tout ça, c'est qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale, il y a une uniformisation, il y a une industrialisation du vêtement qui n'était pas le cas avant. Avant, la mode était, tu allais chez ton tailleur, tu choisissais un vêtement et tu le faisais faire. Ce qui était industrialisé, c'était le vêtement fonctionnel, donc de travail, etc. Et en fait, même la notion de taille et de marque arrive avec la Seconde Guerre mondiale, parce que c'était un tel événement majeur d'industrie du vêtement, même pour aller combattre. Hein. Ne serait-ce que les tailles avec les 38, 40, 42, avant ça, n'existaient quasiment pas, à part pour le vêtement de travail. Donc il y a aussi ce fait historique qui fait qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a le plan Marshall, il y a les États-Unis qui restent en Europe, qui commencent à nous piquer avec leurs héroïnes qui sont le Coca-Cola, le jean, le t-shirt blanc, les Lucky Strike, toute cette façon de consommer qui en fait lance ce premier truc qui va être déconstruit, en tout cas jusqu'aux années 60-70. C'est une lente descente.
Mais en vous écoutant, je me dis que c'est pas uniquement le fait de l'industrie de la mode ou de l'industrie du vêtement, c'est aussi la façon dont chacun conçoit la place qu'il accorde aux vêtements, parce que on peut tout à fait se construire un look particulièrement singulier avec de la fast fashion ou en allant dans des friperies. C'est que il y a une forme de conception du rôle qu'on assigne aux vêtements qui a aussi évolué. C'est-à-dire que peut-être que le vêtement, je vais caricaturer, hein, c'est une façon soit de s'invisibiliser, soit au contraire de s'affirmer de manière forte et très puissante. Là, on est dans une espèce d'entre-deux, en réalité. Enfin, est-ce que vous...
En ce moment ?
Oui.
Il y a les deux qui s'affrontent. Il y a quand même des jeunes qui sont très forts pour être individualisés et faire des recherches très indépendantes. Mais c'est vrai que la masse, force est de constater qu'elle va toute dans la même direction. Il y a une uniformisation globale et du style. Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai aimé ton mot que j'ai oublié, c'est se différencier, mais sans différenciation. C'était plus joliment
dit. Oui, il y a un truc comme ça.
Et en fait, tu crois être différent, mais en fait, comme tu as vu exactement la même chose sur Instagram toute la journée, tu crois être différent, mais tu fais exactement la même chose que tout le monde. Donc tu portes ta casquette d'une certaine façon, tu mets ton hoodie sur les épaules d'une certaine façon, blablabla. Et puis en fait, inconsciemment, c'est que tu as vu 10 mecs le faire, et s'il y en a 10, en fait, c'est qu'il y en a 10 000. Et c'est très difficile. J'ai un ami, Ramdan Touami, je sais pas si tu vois, qui est un grand créatif, et qui dit une fois que c'est sur Internet, l'inspiration est morte. Et c'est assez vrai. C'est qu'il faut aller chercher des choses que les autres ne peuvent pas voir pour créer quelque chose de différent. Mais ça demande un effort intellectuel. Assez fort de se dire je vais faire quelque chose qui peut choquer, comme tu disais, c'est que parfois il y a des gens aussi qui ont pas envie de choquer, qui veulent être juste dans une case, ils travaillent chez AXA Bank, ils bossent, tu vois, il y a pas toujours la volonté d'être créatif, mais je trouve dommage que les créatifs aujourd'hui soient moins visibles et moins, peut-être moins forts que dans les années de sous-culture dont tu parlais tout à l'heure.
Mais Adrien, tu partages ça sur cette évolution de la fonction sociale du vêtement, est-ce que tu considères qu'il y a une espèce de... Cette massification de l'industrie de la mode et du vêtement a aussi contaminé les esprits, et que cette volonté de s'affirmer par une forme de look, une forme de style vestimentaire singulier est en train de se perdre.
Je sais, en fait, moi, ce qui me frappe quand même, c'est... J'ai l'impression que la différence, c'est surtout que les marques sont sans doute plus présentes dans le quotidien des acheteurs et des consommateurs. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on pourrait très bien se dire... Il y a des communautés de marques, c'est-à-dire qu'il y a des gens Balenciaga, il y a également des gens... Je parle Balenciaga parce que c'est sans doute la seule marque qui a pu vraiment se propager en fait dans la rue, quoi.
Aussi, c'est une silhouette qu'on pouvait reproduire avec 20 euros chez Guérissol, ce qui était aussi le génie du truc, c'est qu'il a créé une silhouette très mode mais que tu peux reproduire avec quasiment rien. Si tu reproduis une silhouette Céline avec les matières qu'il a, c'est plus difficile de le faire pour pas cher.
Ouais, c'est ça, ou même du Gucci d'Alessandro Michele. C'est compliqué. C'est compliqué. En tout cas, ce qui s'est passé, je pense, dans l'histoire des contre-cultures ou des sous-cultures, c'est que progressivement, ça a été des sous-cultures aussi qui ont été accompagnées par les marques. Ouais. Suprême, c'est sans doute l'exemple le plus frappant, parce que là, on a quand même une marque authentiquement sous-culturelle, qui accompagne l'évolution d'une sous-culture, bon, alors très précise, très, très new-yorkaise, etc. Et que là, on va effectivement, donc ça va être, on va acheter du Supreme sans doute pour signifier son appartenance à cette sous-culture, alors que dans les contre-cultures des années 60 ou 70, il y avait sans doute moins le
début de la fin, c'est un peu McLaren, c'est McLaren et Wayward Scoot qui font une marque de punk, c'est-à-dire qu'au moment où tu fais une marque de punk, tu tues le punk. Donc c'est un peu ce problème, c'est la coexistence entre sous-culture et marque est un peu antinomique dans la majorité des cas.
Parce qu'après, avant, effectivement, on avait des marques qui s'inspiraient de contre-culture, mais les individus qui étaient intéressés authentiquement par la sous-culture ou la contre-culture n'allaient pas acheter du Jean Bouquin, par exemple, en France, qui s'inspirait du mouvement hippie. Mmh. Bah, un hippie n'allait pas acheter du Jean Bouquin.
Ou Tim Bargeau. Ou
voilà. Donc, effectivement, et à un moment, il y a une réunion des deux. Mais après, je ne sais pas si c'est si négatif que ça, hein, en réalité, mais...
Il y a aussi une esthétique dans l'uniformité. Hein. Quand tu vois des masses de hooligans ou des masses de punk ou des masses, quand tu vois une uniformité en quantité, ça peut être aussi très beau. Mais ça n'appelle pas l'individu à s'exprimer librement.
Et pour ouvrir la discussion sur d'autres formes d'expression artistique qui peuvent influencer, bon, on a tous en tête, je pense, l'influence qu'ont pu avoir des artistes comme David Bowie sur la façon de s'habiller, aussi une conception du vêtement comme expression de son émancipation, de sa façon de contester un certain nombre de codes.
Pour finir en costume cravate, quand même à la fin. Non, c'est vrai. Il a quand même tout déconstruit pour finir.
Oui, c'est parfois des parcours assez. Comment dirais-je voilà.
C'est souvent le cas. Hein. Les mecs déconstruissent tout, et puis à la fin, ils disent en fait, c'est assez bien branlé quand même le costume cravate.
Qu'est-ce que vous repérez dans le paysage artistique et culturel actuel qui a une puissance d'influence comme a pu l'avoir David Bowie, par exemple?
Taylor Swift. Non, je suis allé trop loin exprès. Ouais. Je vais dire un truc qui va choquer peut-être des gens et c'est vraiment apolitique, mais je trouve que Kanye West a une influence sur la mode et les volumes depuis 20 ans qui est très impressionnante. Parce que c'est un esprit qui est sans doute très malade, mais c'est un esprit qui se lasse beaucoup plus vite que nous et qui comprend en fait les mécanismes de lassitude des masses avant les masses. Donc se dire, ok, on a mangé du cool, hoodie, tout trop grand, blablabla, bah, le coup d'appel, des grosses baskets, etc., avec le pantalon qui bave dessus. Bah, moi, je vais faire un pantalon avec un volume de judo, le croppé et mettre des mini chaussures. J'en ai marre de ce rap américain, new-yorkais, afro-américain, etc. Et bah, je vais faire chanter des hooligans racistes de la Juventus de Turin sur mon album parce que c'est le coup d'après. Donc ça choque tout le monde. Et puis en fait, petit à petit, tout le monde commence à recouter Oasis, Manchester et ça revient à la mode. Donc en fait, il a ce truc. Déjà, il a la puissance de lancer des tendances. Mais il a surtout ces esprits qui ont les génies, avec tout ce que ça implique de déviance, de comprendre plus vite ce qui va se passer après. J'ai un ami qui dit assez justement, les génies travaillent pour demain et les commerçants pour aujourd'hui. Et c'est vrai que cette façon de voir l'avenir comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Je pense à, comment ça s'appelle, chez Marnie, Francesco Riso, qui est un créateur que j'adore, et qui déconstruit en permanence tout. C'est-à-dire qu'il casse tout, il déchire, il peint, il fait tout à la main, etc., pour finir sur un truc commercialisable. Mais ça, c'est un personnage que j'aime beaucoup en ce moment, qui est un peu sous les radars, que je trouve intéressant, qui est moins matrixé que d'autres. Je ne sais pas si tu en as d'autres en tête.
Ouais, non, en tout cas, si on parle de culture populaire, effectivement, il me semble que Kanye West soit la personne la plus importante, sans doute, des 15 dernières années.
Ça fait plaisir que quelqu'un d'autre le dise. Surtout quelqu'un comme toi.
Non, mais, avec toutes les ambiguïtés, effectivement, qu'il a pu avoir aussi progressivement et surtout ces dernières années. Mais c'est sûr que quand. C'est une figure intéressante parce qu'il a. Il a à la fois créé, mais il a surtout beaucoup inspiré. Parfois, il s'est fait le passeur aussi de certaines esthétiques. Et il a vraiment, en tout cas, démocratisé des esthétiques qui étaient très très niches. Il y a aussi l'une de ses grandes influences, moi qui me semblait assez dingue, c'est Shia LaBeouf. Il revendique d'ailleurs cette influence.
Un autre esprit malade d'ailleurs.
Voilà.
C'est un autre esprit complètement fucké.
Mais il y a quelques années, ces looks à Los Angeles étaient complètement dingues.
Mais je pense que justement parce qu'il déconstruisait le commun, il voulait pas ressembler. Il faisait que du fonctionnalisme. Il faisait du sport, donc il voulait un short court et des trucs chauds et volumineux au-dessus. Et Kanye était fou de Shia LaBeouf. Et c'est vrai que c'est.
Qui est Shia LaBeouf?
Acteur qui a à la fois joué dans des très bons films et à la fois
et
dans des films
grosses blouses, ouais. mais ce qui est assez dingue, c'est qu'il rentre tellement dans ses personnages, parce qu'il joue un personnage d'un mafieux, tu me dis si je me trompe, mais qui devait avoir le torse entièrement tatoué. Il a dit bah non, vous allez pas me faire un faux, je vais me faire tout le torse comme le personnage. Donc il s'est recouvert de tatouages pour un personnage, mais il l'a fait vraiment et il voulait être dans la douleur pour comprendre le truc, etc. Il a fait une performance assez étonnante où il a regardé l'entièreté de ses films et de ses séries. Il s'est enfermé dans un cinéma dans le noir en permanence, enfin en boucle sans arrêt, donc il pleurait, enfin c'était complètement déviant, mais c'est quelqu'un qui à mon avis a beaucoup de génie, et tu fais bien de le citer parce qu'en termes d'influence, lui, il était très important et pour Kanye et pour beaucoup d'autres. Et Kanye, sa force, c'est que oui, il est fou, oui, il est avant tout le monde, etc., et il casse des barrières, mais il fait des succès commerciaux absolument colossaux. Il faisait 1 milliard chez Adidas sur sa ligne Yeezy. Dès qu'il touche quelque chose, ces trucs Gap, c'était hyper bien pensé 3 ans avant tout le monde. Donc c'est quand même un esprit. Le fauteuil de Jean Royer qui s'appelle l'ours polaire, qui est un fauteuil absolument sublime, qui est connu des connaisseurs, mais Jean Royer, pour les rappeurs, ça n'existe pas. Bon, bah, il a fait en sorte que ce fauteuil coûte 1 200 000 aujourd'hui, parce que Kanye a dit ça, c'est intéressant. Donc il a quand même cet œil qui se dit ça va être notre temps dans 5 ans, il le fait et ensuite tout le monde suit.
Ouais, non, mais s'il y avait un parallèle à faire avec David Bowie, c'est l'un des. C'est sans doute le plus indiscutable. Hein. Enfin, après, il y a plein de gens influents, Frank Ocean aussi, etc. Ouais, mais c'est moins, effectivement.
Trop intello. Enfin, ça va.
Ouais, voilà,
trop,
c'est moins clair qu'à mon avis. Enfin, il est influent, en tout cas pour les gens qui s'intéressent à lui, etc. Mais Kanye West, c'est quand même, à mon avis, un autre.
Et même, il y a un fait assez intéressant. Après le premier show de Pharrell, il y a un fan de Pharrell qui va à côté de lui, qui fait un selfie comme ça. Il disait I am with the Don of Vuitton. Je suis avec le King, le roi de Vuitton. Et il dit ah non, je t'arrête tout de suite. Le roi de Vuitton, c'est Kanye. Je suis son vassal et je le resterai toute ma vie. Et cette modestie, après le défilé où t'es payé des millions d'euros pour dessiner un truc et dire en fait moi je suis le numéro 2, et ils ont pas eu le numéro 1 parce qu'il était tellement fou qu'il voulait être président des États-Unis quand LVMH a pensé à lui, que tu te souviens de cette phase quand même. Au début, Virgil Abloh, il arrive parce qu'ils arrivent pas à voir Kanye qui est en train de péter des durites. Mais au départ, le premier arrivé, je crois que c'est en 2012 ou dans ces années-là, Kanye arrive à Paris avec Virgil Abloh, tout le monde, et il est en full Vuitton, multicolore, hyper prépi, etc. C'est lui qui dit au rappeur, le vrai truc cool, c'est Vuitton, avec Marc Jacobs, qui est le premier d'ailleurs à faire le lien entre la rue et la mode.
Non, mais c'est décisif, et aussi par les gens qu'il a côtoyé, quoi. Virgil Abloh, évidemment. Alors après, d'autres gens qui ont plus ou moins réussi ensuite, mais Matthew Williams, aussi lié à lui. Samuel Ross également est passé dans le. Il a fait beaucoup d'enfants, entre guillemets, aussi. Donc,
c'est un peu dur, mais il les domine tous intellectuellement et créativement, je pense. Il est vraiment le chef de ces mecs-là. Non, t'es pas d'accord ?
Kanye West, tu dis ?
Je pense qu'ils le diraient eux-mêmes, c'est le chef de tous ces mecs-là, parce qu'il a une façon de réfléchir. Même Demna, dans l'interview, disait Kanye m'appelait tous les jours en disant « qu'est-ce qu'on peut faire qui n'existe pas ?» C'est son obsession, c'est de dire « comment on avance ? Qu'est-ce qu'il y a après ? Qu'est-ce qu'il y a après ? Qu'est-ce qu'il y a après ?»
Ouais.
Et à chaque fois, il a assez raison.
Mais effectivement, mais encore une fois, il faut évidemment souligner que c'est une figure très, très ambiguë aussi par son ambition, sa mégalomanie. Moi, j'avais un étudiant qui rapprochait ça des régimes totalitaires. Et effectivement, il y a une sorte de totalitarisme, et il avait totalement raison chez Kanye West, aussi par la manière dont, par son amour de la masse et de la du prix. C'est aussi quelqu'un qui, alors c'est ce qu'on dit, hein, qu'il a quitté Nike parce que les sneakers chez Nike étaient trop chers. Alors, mais derrière le geste. Apparemment bienveillant, il y a aussi l'idée de c'est ce qu'il disait, hein, de faire un iPhone de la mode, et derrière ça il y a une idée d'uniformiser les gens quand même.
Ouais, mais c'est rendre aussi à tout le monde le confort l'iPhone de la mode, c'est bien dit, il n'existe pas vraiment, ce serait peut-être une iClo ou même pas vraiment, parce que ça ne serait pas porté par les mêmes gens. L'iPhone, ça touche 100% des populations de haut en bas. C'est vrai que dans le vêtement ça n'existe pas vraiment, donc il y a un trou, et il a fait toute sa ligne à, je ne sais plus, c'était $18 ou $15.
Ouais, mais ouais,
il n'arrivait pas à livrer d'ailleurs, mais tellement il y a eu une demande. Mais il est tellement controversé. Je pense qu'il a vraiment un esprit totalitaire, comme tu disais. Il a fait son album. C'est un mec de black metal qui s'appelle. Mince, le nom échappe. Ce fou là, ouais, qui habite en France. Tu vois ? Comment ? Bourzoum. Ouais, Bourzoum. Voilà. Donc il a pris la couverture de Bourzoum pour faire son album Vulture. Et quand vous avez la référence de qui est Bourzoum, tu peux pas toucher à ces personnages-là. Enfin, même si c'est ça, potentiellement un génie dans son domaine, qui crée 100% seul toutes ses musiques, etc. Mmh. D'avoir mis le doigt sur ce mec-là, déjà, c'est curieux. D'écouter sa musique, c'est encore plus curieux. Mais d'en faire son t-shirt, c'est absolument injouable. Donc évidemment qu'il y a des frontières qu'on valide absolument pas. Mais il a besoin de creuser. Et puis lui va dire, non, mais en fait, ce qu'il voit, c'est différent. C'est un truc qui est référent aux populations extrêmement anciennes, des civilisations qui n'existent plus, blablabla. Mais à la fin, c'est un néo-nazi. Donc la question se pose plus, quoi. Il n'y a pas de... affirmé en plus, hein, il a un bracelet électronique, c'est vraiment un malade. Donc on valide absolument pas tout ce que fait Kanye West, loin de là.
Non. J'avais, avant de vous passer la parole, de passer la parole au public, Gauthier, j'avais une question sur la différence que tu fais entre la mode et le vêtement.
J'aime bien dire vêtement subi, vêtement choisi. Et il y a le vêtement que tu choisis pour exprimer ta personnalité, etc. Et il y a celui qui remplit simplement la fonction. Alors, je pense que la mode est un vêtement, donc le vêtement chapeaute le tout. Mais le vêtement, ce que j'aime, c'est... Enfin, quand je pense à vêtement, je pense vraiment à la construction. C'est-à-dire le tissu, la fabrication et quand il est produit, où, par qui, pourquoi. C'est vraiment ce que c'est comme objet. Et après, la mode, c'est un désir bourgeois de s'habiller pour exprimer un sentiment ou... En fait, quand t'as le choix. Je pense qu'il y a des civilisations qui se posent pas la question de comment ils s'habillent. Ils ont juste froid, il faut se couvrir. En revanche, dans n'importe quelle civilisation, il y a une hiérarchie. Le chef d'une tribu ne s'habille pas comme le paysan, le roi ne s'habille pas comme... Voilà, il y a toujours une hiérarchie. Mais moi, ce que j'aime dans le vêtement, c'est quand il est pensé uniquement pour une fonction. J'aime bien toujours rattacher. Tu vois, c'est vrai que quand j'ai appris le pas de def, pour moi, c'était une illumination quand on m'a expliqué. Et c'est encore une fois un vieux de la fripe d'Afrique du Nord qui m'a expliqué. Et ça a tellement de sens. C'est simplement un truc fonctionnel. Il faut que ce soit moulant là pour les manœuvres et large en bas pour pouvoir être rouloté rapidement. C'est aussi bête que ça.
Adrien, sur ce sujet, tu veux...
Non, je suis totalement d'accord. Hein, historiquement, effectivement, où la manière dont la mode a été définie, c'est quand même beaucoup le renouvellement. Hein. La mode, c'est le renouvellement qui s'applique aux vêtements, évidemment, mais pas que. Les idées sont à la mode, les chiens sont à la mode. Il y a plein de trucs qui sont à la mode, qui peuvent l'être. Et après, effectivement, il y a tout un panel de terminologie. Donc le vêtement, qui est effectivement sans doute le mot le plus neutre. Et après, il y a aussi l'idée de costume, qui là, effectivement, aussi, historiquement, a toujours renvoyé plutôt à des géographies précises, à des temporalités plus douces, moins changeantes. Et c'est traditionnellement, en tout cas, la différence et la distinction qu'on faisait. Et alors là, pour revenir à Corto, effectivement, on parle pas de mode, quoi. On parle d'un vêtement, d'un presque uniforme, d'un costume... Et oui.
Il y a un petit fait historique qui change en tout cas en France, c'est la fin de la royauté. C'est-à-dire qu'au départ, c'est le roi qui décide des modes. Le talon rouge, le violet, la mode est au rouge, la mode est au machin. C'est parce qu'à la cour à Versailles, on porte ça. Et après, ça ruisselle dans la masse. Et comme tu disais tout à l'heure, à la Révolution, on veut déconstruire ça. Et donc le noir arrive pour dire on est uniforme parce qu'on est tous pareils. Et on est juste habillé pour la fonction qu'on a dans la société, donc en boulanger, en notaire, en notable, etc. Et en France, en réalité, la déconstruction de ça, c'est post-Seconde Guerre mondiale, avec l'arrivée par la musique et la culture des anglo-saxons, par le rock'n'roll, par après Bowie, etc. Le golf Drouot dans les années 50, qui était le premier lieu de mixité culturelle un peu underground en tout cas. Après il y a eu les Teddy Boys, enfin, il y a eu plein de sous-cultures qui sont arrivées en fait par la musique et par en fait la fin de la guerre. Si on avait perdu, en gros, je pense que la mode serait totalement différente aujourd'hui et on aurait été influencé par des choses complètement différentes.
Très bien, on va peut-être donner la parole à la salle. Est-ce que qui souhaite intervenir?
Merci beaucoup.
Ah, voilà. Ça marche, oui. Bonsoir, merci pour la présentation. Moi, j'ai une question. Enfin, chacun ses obsessions. On a parlé de masculinité, de modèle de masculinité, d'archétype de masculinité. Quand je regarde Corto Maltese, il y a une autre figure dessinée un peu uniformisée à laquelle je pense, c'est les dessins de Tom of Finland. Et qui aussi réfléchissent autour de ces archétypes de masculinité. Et je voulais savoir, en fait, ma question n'aboutit à rien, j'ai l'impression, c'est terrible, c'est un problème chez moi. Mais du coup, en fait, ma question, c'est qu'est-ce que vous pensez de ce potentiel lien? Est-ce que vous dites que peut-être lui, c'est une version plus soft de ce genre de dessin?
C'est du soft porn, vous voulez dire?
Oui, voilà, c'est un soft Tom of Finland. Non, mais du coup.
La différence, je pense que Tom of Finland est ouvertement et volontairement sexualisé. C'est même le projet initial, je pense. Ce qui n'est peut-être pas le cas, de Hugo Pratt. C'est un fantasme postérieur. Mais je ne pense pas que Hugo Pratt ait voulu faire un personnage sexuel, ni gay, ni hétéro, ni rien. Je pense qu'il a fait juste un personnage fantasmagorique. Et après, c'est le regard qu'on pose
dessus. Mais si on l'incorpore dans le contexte des années 60, où justement on dit qu'il y a des marqueurs qui sont quand même. Qui révèlent une forme d'ambiguïté, même si c'est pas aussi explicite que dans le cas de Tom of Finland. Enfin, justement, c'est un jeu sur cette.
Si c'est un jeu, il est très fin et très subtil. Il doit exister. Et comme tu disais, ça correspondait pile à l'époque. Mais je pense pas que ce soit une volonté. Je sais pas si Hugo Pratt était gay.
Non.
Ou s'il a pas eu de mission là-dedans. Il a juste fait un marin et ça correspondait à une sexualité. À cette époque-là, mais je crois. Alors que Tom of Finland, il n'y a pas d'ambiguïté.
Oui. Non, mais je veux dire, est-ce que c'est une espèce de
continuité? Je ne sais pas si une continuité. Tom of Finland, ça commence quand? C'est beaucoup plus tard, non?
70, 80, ouais, ah ouais. Ouais.
C'est bien plus tard, ouais. Après, peut-être que Tom of Finland s'est inspiré de ce personnage et a grossi le trait, a plaqué plus le pantalon, voire retiré.
Il y avait monsieur. Et ensuite. Merci.
Déjà, merci beaucoup à vous trois. C'était très passionnant. Merci. J'avais une question au sujet de, peut-être pour revenir au sujet de la BD, qu'est-ce que vous pensez de l'utilité de l'uniforme, c'est-à-dire d'une tenue utilisée à quelques variations près, comme vous le disiez tout à l'heure, que ce soit dans Corto Maltese ou par exemple dans Lucky Luke, des choses comme ça?
Je pense que c'est une façon évidente de reconnaître un personnage parce qu'une fois qu'il n'y a pas de 3D, qu'il n'y a pas de matière, moi je pense beaucoup à Tintin aussi où chaque personnage est très codifié, c'est une façon très évidente d'incarner un personnage et d'en faire en plus un mythe. C'est-à-dire que même on pense à Obélix, dès qu'il y a une BD, la définition du personnage est majeure. Mais ça, moi il y a une série que j'adore qui s'appelle Seinfeld, qui est ce qui a inspiré Friends. Et dans Seinfeld, quand vous regardez la composition des personnages, tout est ultra codifié. Kramer, il met que des chemises bowling avec des pantalons à pinces et des chaussures creepers en général. Seinfeld, pareil, en Levi's 501, chemise rentrée, la bonne paire de Nike. Et ensuite, il y a ce génie qui est, comment il s'appelait, Costanza, George, qui lui est habillé en espèce de J-Crew de la outdoor américain classique. Donc, je pense que, quelle que soit la définition d'un personnage, c'est aussi un truc de facilité de dire, ok, je crée mon personnage, et du début à la fin, tu peux, c'est plus une question que tu te poses, et ça permet d'ancrer le personnage dans son époque et dans sa façon de vivre. Je pense que c'est même majeur dans toute la création artistique.
Oui, effectivement, je pense que toute forme narrative, mais on le voit aussi dans des séries, au cinéma en fait, que ce soit James Bond, Indiana Jones aussi, ça passe par le vêtement, par le costume et par une caractérisation du costume qui peut après plus ou moins varier en fonction de la longueur de la série, parfois des occasions comme là effectivement, quand on se bat, on peut enlever la redingote quoi.
C'est vrai que même chez les artistes, il y a parfois chez certains artistes la volonté de créer un personnage. Moi, je trouve ça à la fois bien et pas bien. Ça dépend si tu veux. Ça montre une volonté de vouloir devenir mythique, en fait. C'est ça qui me dérange un peu. Il y a un truc d'ego trip qui est un peu parfois dérangeant. Bowie, par exemple, personne ne peut dire Bowie, c'est ça. Parce que Bowie, il change tous les 5 ans, il cherche en permanence et on ne sait pas qui il est. Je pense qu'on dira pareil de Kanye à la fin, on ne sait pas qui est Kanye. Et à l'inverse, il y a des personnages comme Iggy Pop. Par exemple, lui, c'est être torse nu, manger que du blanc de poulet parce qu'il veut être sec et dans un pantalon moulant, torse nu. Et je pense que c'est un peu travaillé. Pareil, Mick Jagger, il n'a pas vraiment travaillé son personnage. Et il a eu 25 styles. Donc je pense que c'est un peu pareil, mais c'est plus glissant quand tu crées un personnage, de le faire évoluer stylistiquement. Il va devenir moins mythique, il va moins marquer son temps, je pense.
Non, je pense que tu en dis. Ouais, effectivement.
C'est pour faire un petit lien dans la mode, un Eddie Slimane, par exemple, lui, il serait comme Corto Maltese, c'est-à-dire qu'il a défini un uniforme qui doit te plaire, je pense.
On peut en discuter, parce qu'en réalité il y a beaucoup de variations.
Il y a beaucoup de variations, mais sur un corps qui est,
effectivement,
il tourne autour d'un truc très très solide. Et alors qu'il y a des designers comme Alexander McQueen qui passent son temps à déconstruire, reconstruire. Il n'y a pas de code vraiment McQueen très fort. Donc quand on parlait de facilité tout à l'heure dans la création et de devenir mythique, il est plus simple de dire ok, je suis tel mec, c'est telle époque qui m'inspire et je martèle ce message. Je pense encore une fois à cette marque américaine et ses casquettes posées sur le haut de la tête, et tu martèles, et en fait à la fin tu deviens une évidence. Et quand tu penses ah faut que je m'achète un sweatshirt, tu penses à lui parce que c'est évident. C'est quand on disait tout à l'heure avec Airbnb ou McDonald's, en fait c'est que ça devient très évident et ça flatte la masse, en fait. Donc ça t'aide à créer un personnage, et je pense que c'est le cas chez Corto.
Il y avait monsieur un peu plus haut. Non.
C'est pas des enchères, hein. Vous pouvez lever la main, il n'y a pas de risque. Personne d'autre?
Non, mais en tout cas, en termes de, enfin sur le plan de la recherche, que ça soit en BD ou en cinéma, et ça parlera sans doute à des gens plus précisément dans la salle, mais c'est très intéressant d'à chaque fois de relire, de faire une relecture du récit ou du film ou de l'histoire ou de la BD par le vêtement et la manière dont le vêtement vient appuyer et accompagner un discours et un récit, et de voir pourquoi ça marche ou pourquoi parfois d'ailleurs ça marche pas. Et je pense que c'est, en tout cas, c'est l'un des éléments clés quand on veut construire une narration, quoi.
En tout cas, dans les films, quand les costumes sont mauvais, vous rentrez moins bien dedans, que vous le sachiez ou non. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas la culture du vêtement, que c'est pas votre truc, vous en foutez, etc. Mais ça marche avec la musique, ça marche avec tout. Quand c'est mal maîtrisé, vous vous dites, il y a une petite dissonance qui fait que ça colle pas. Et parfois, c'est volontaire. Dans Marie-Antoinette, par exemple, elle met des Converse et c'est volontaire parce qu'elle veut marquer ce truc-là. Mais quand c'est mal maîtrisé, vous le savez tout de suite.
Pas d'autres questions ?
Sur autre chose, on peut parler de politique, circulation en Paris.
Bien, merci beaucoup, Adrien Desgautier. Merci à la BPI. Merci, Michel André.
Merci à tous les trois. Et merci à... je ne sais pas si j'ai du son, si c'est bon. Et merci à vous d'être venus, du coup. Et n'hésitez pas à prolonger l'expérience en allant voir l'Expo Corto à la BPI. Merci beaucoup. Bonne soirée.